de faire une remarque, une observation sur cette lettre. Là, vous trouverez la trace dans l'article de Derrida consacré à Georges Bataille, qui s'intitule un hegelianisme sans réserve. Le mot équivoque, c'est le mot formation. D'ailleurs, Lacan l'a dit à un moment donné, il dit j'ai jamais parlé de la formation de l'analyste. Lacan, il précise, il dit ça, c'est bien, il dit j'ai parlé de formation de l'inconscient. Aujourd'hui, le mot passe par nous, le mot passe par nous, qui va permettre l'opération de destruction de la psychanalyse, c'est le mot formation. C'est très connu parce que vous voyez, ça va jusqu'au fait que ce qui est en vogue, c'est de dire qu'une organisation de la psychanalyse est sérieuse et conséquente si elle s'occupe de la formation, et ce qu'il trouve, c'est ce qu'on appelle la passe, c'est l'organisme de passe. Bon, c'est un piège énorme que Lacan a ouvert, comme ça, tendu, tout le monde est tombé dedans, pas tout le monde. Majoritairement tout de même. Ce qui fait qu'on est là, c'est, ça ressemble au centralisme démocratique féministe. Vous savez, à l'intérieur de l'organisation, on dit que c'est la formation de psychanalyste et la base, quelque chose d'un peu mystérieux. Et du coup, ce mot formation permet de faire tourner la tapisserie et de dire que ça justifie le fait que les associations soient des psychanalystes, soient des officines, des institutions loi de 1901, des associations loi de 1901 qui voudraient pour certains avoir la tâche d'assurer la formation clinique des pauvres malheureux psychologues ou psychothérapeutes, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Les psychiatres, eux, n'en ayant pas besoin, parce que comme ils sont médecins, on suppose que la formation en question fait partie de la tradition médicale. Bon, c'est vrai qu'il y a une tradition médicale, hein. Même dans cette société médicale, vous pouvez le rencontrer en psychiatrie, vous pouvez trouver la présentation malade que Lacan a fait jusqu'à la fin de sa vie. De dire à un ami qu'il critique, il dit j'ai honte, mais je continue. Et pourquoi Lacan a-t-il assuré comme ça, grâce à Sherman, le mari, une présentation de malade à Sainte-Anne jusqu'à la fin de ses jours? Il dit à un ami, il dit oui, je veille à ce que les gens qui viennent soient tirés sur le volet. Ouais, c'est vrai. Mais moi, je peux dire que je ne suis pas allé. J'ai rien à faire dans la tradition psychiatrique, mais je conçois très très bien que Lacan veuille ne jamais dénier le fait qu'il est que psychiatre, qu'il est toujours, et que c'est une tradition psychiatrique. Je trouve que la présentation de malade, ça vous le dit, ça a une très grande importance pour les gens qui sont soumis dans le service où ça se passe. Il a tout à fait la notion de ça. Et c'est sûr que c'est avec sa pratique d'analyste, son expérience et sa lecture de Freud qu'il écoute, qu'il parle avec les sujets présentés. Il en fait état dans le plusieurs séminaires. Il dit j'ai honte, mais je continue. Parce que Manoni nous dit qu'il ne faut pas faire ça. Elle voulait, Madame Manoni, elle voulait que le monde s'arrête. Alors ce qui n'est pas bien, par contre, c'est les gens qui ne sont pas médecins ni psychiatres qui font des présentations de malades. Alors ça, je trouve ça un con de ridicule. On est dans la guerre. Et je connais un certain nombre de psychologues qui arrivent à avoir assez de charisme pour soumettre, comme des mâles dominants, pour soumettre quelques pauvres chefs de clinique qui ont des responsabilités dans un hôpital et arrivent à imposer avec leur charisme. Le fait de faire une présentation de malade, on se demande ce qu'ils font là. Voilà. Vous voyez que ça, c'est lié à la faiblesse du discours, enfin, au peu de considération qu'on a pour les conditions, les contraintes discursives. Les discours sont des liens sociaux qui ont des contraintes. Et donc, dans l'histoire politique, il n'y a pas de présentation de malade. Ça n'empêche pas la quantité psychiatre de faire une présentation de malade. Moi, j'ai fait des cours de maths, je peux encore faire des cours de maths. Je suis professeur de mathématiques, je ne vais pas faire des présentations de malades, ça me paraît ridicule. Par contre, il n'y a pas beaucoup de professeurs de mathématiques de psychanalyse, c'est dommage, parce qu'il y a plus de cours de psychanalyse qui seraient peut-être inspirés de cette façon de faire avec la lettre qui s'appelle les mathématiques. Et c'est une chose que de. C'est une chose d'avoir des pratiques, et puis c'est une chose d'inscrire ces pratiques, comme on dit inscrire, enfin, de situer, de définir, de préciser, d'en préciser les modalités, dans ce qu'on appelle plus, grâce à Lacan, on appelle plus ça le cadre. Le cadre, c'est encore quelque chose qui existait chez les Kenyans. Les Kenyans anglais, quand ils achètent un blazer, ils en achètent trois. Ils achètent une chemise, ils en achètent cinq. Pour avoir la même, il ne faut pas en changer. La même cravate, il ne faut pas bouger un bibelot dans la salle d'attente, parce que ça aurait des effets transférentiels. Moi, je ne doute pas une seconde que ça ait des effets transférentiels de changer de place les meubles. Mais justement, si l'analyse existe, c'est qu'on est là pour ça, pour venir s'occuper des effets transférentiels. Qu'est-ce que ça veut dire que, en fait, il ne devrait pas y en avoir. Et la neutralité analytique. Ça, c'est encore un autre monument historique qui est extrêmement intéressant à observer et puis de voir comment Lacan est intervenu dedans. C'est pas seulement les séances courtes, la neutralité analytique de Lacan, elle est un peu spéciale. Alors, Mme Moulinesco, elle nous dit oui, mais Lacan, il peut faire ça parce que c'est Lacan. Elle a même la gentillesse de dire que moi je peux faire de la topologie et étudier les deux parce que je suis moi. Il dit vous c'est vous, alors vous pouvez aimer les autres. Et moi je ne suis pas content du tout d'avoir le privilège de faire de la topologie tout seul. C'est très embêtant. Parce que c'est pas du tout une affaire de spécialité. Hein? Bon, Lacan, il faisait pas de l'analyse expérimentale. Par contre, s'il voulait faire de la psychanalyse expérimentale, il était fondé à le faire. Parce que, comme l'écrit très bien Canguilhem, dans la tradition médicale, comme il était médecin, on est tout à fait concevable qu'on expérimente. Et même, Canguilhem, dans un très beau texte, à la fin des études d'histoire et de philosophie des sciences, il écrit un très beau texte sur la médecine. Et l'expérimentation aussi, et il dit que les médecins, ils ne peuvent pas s'empêcher d'expérimenter. Ça fait partie de la médecine. Donc, quand, par exemple, il disait que lui, ce qui l'intéressait, c'était par exemple quand il pouvait arriver à avoir un couple, le mari et la femme et le mari, je ne sais pas à quelle heure c'est arrivé chez lui, mais quand il avait un couple en analyse, il trouvait ça très intéressant, ça l'intéressait beaucoup. D'après les témoins, enfin ceux qui ont été mis à ce régime, puisque Haddad a raconté qu'il avait été adopté par Lacan, on a aussi le témoignage de sa femme, qui était en analyse avec Lacan en même temps que son mari, et qui d'accord, ils disaient non, c'est très bien, continuez, continuez. Et donc on peut dire que c'était pas forcément la paix des ménages. Et d'ailleurs, la psychanalyse, c'est pas du tout fait pour assurer la paix des ménages, puisque en général, quand quelqu'un vient consulter parce qu'il veut retrouver la paix dans son ménage, comme on dit, sauver son couple, en général, ça marche pas. Quelques semaines après, voire quelques mois, ça explose. Donc, c'est pas fait pour ça. Donc, tout ça, c'est pour vous dire qu'il y a des choses quand même extraordinaires. Ça va mettre du temps à percer, à mûrir et à apparaître. Et c'est pour ça que je considère que cette lettre de Hegel, qu'il faudrait mettre au fronton d'une association de psychanalyse, Hegel, il dit bien, ce qu'il dit, c'est moi je trouve que cette phrase est merveilleuse, enfin, absolument formidable. Hein. Vous voyez, il dit la science qui vous conduit dans le labyrinthe de l'âme est seule capable de vous en retirer et de vous guérir. Si cela vous est possible, rejetez pendant quelque temps tout ce souci loin de vous. Si vous vous en tenez éloigné, vous pourrez y revenir avec une force renouvelée et une plus grande puissance. Donc, c'est ce qui vous rend malade qui peut vous guérir. Alors, on ne voit pas bien comment on pourrait assurer des garanties en ce genre vous allez payer votre analyse mensualisée. Bon, la mensualisation, ça peut être une bonne indication. Il faut l'établir et la respecter strictement dans des cas de névrose obsessionnelle bien marqués. On disait qu'il fallait respecter un horaire bureaucratique. Donc, mais la question, c'est que tout ça est sujet à des changements et à des appréciations. Et donc, il n'y a pas de recette. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que, par exemple, Freud lui dit ça autrement que Hegel. Il dit, si l'analysant n'est pas prêt à brûler les meubles, la psychanalyse, ça ne marche pas. Alors, je ne comprends pas comment l'État pourrait faire participer à une organisation d'État quelconque une pratique comme ça sous prétexte qu'il y aurait un mystère sur la formation clinique des psychologues, qu'ils auraient des études à faire à l'université et qu'ensuite ils devraient avoir pour être psychologue clinicien une formation délivrée par des officines. Je sais bien qu'on fait un gros usage des associations des lois de 1901 entre le public et le privé, c'est des organisations. C'est une façon d'essayer justement de contourner les difficultés budgétaires. Mais enfin, tout ça ne paraît pas toujours très honnête et ça crée des contradictions d'ailleurs qu'on rencontre très bien dans beaucoup d'associations, dans les IMP, dans tous les endroits qui ont comme ça des statuts semi-publics, semi-privés, il y a des problèmes. Bon, les choses mal fichues, ça produit de la folie et de la culpabilité, c'est-à-dire du surmoi. Alors, il faut le savoir. Le mieux, c'est quand même de dire à quel endroit on s'engage et puis à quel autre endroit. Hein. Et puis que le régime n'est pas le même pour tout le monde, parce que c'est vrai que il y a des problèmes distincts et des façons de s'y attaquer qui sont distinctes. Bon. Alors voilà pour cette lettre de Hegel, parce que je vais intervenir là encore en Belgique, qui me demande de venir faire un exposé sur la formation. Vous voyez, ça n'arrête pas, la formation. Donc je vais leur envoyer la lettre de Hegel et je vais leur parler de la formation, comme ils en parlent. C'est-à-dire que je vais leur dire que je suis quand même étonné qu'on parle de la formation et qu'on ne parle pas de la formation à quoi ou de quoi. Et c'est ça la question qui nous intéresse. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de psychanalyse? Alors, nous nous retrouvons ici constitué d'un côté de nœuds et de l'autre côté de chaînes. Là, ce sont des nœuds propres et là, ce sont des chaînes. Alors, vous voyez bien que lorsque je vous parle de ça, lorsque je vous distribue ces choses-là, qui n'a pas eu ça? Vous avez tous eu, vous n'avez pas eu les nœuds et les chaînes, vous n'avez pas eu. Et des nœuds et des chaînes là, ça devrait vous surprendre parce que vous avez été sans doute habitué depuis que vous savez que Lacan a parlé, vous avez été habitué à entendre parler du nœud borovien et donc Lacan apparemment, qui ne fait pas de distinction entre les nœuds et les chaînes, parce qu'il prend une chaîne et il appelle ça un nœud. Hein, le nœud borovien, vous voyez, dans ma petite planche de dessin, il est là. Il est du côté chaîne, le borovien. Ce qui prouve qu'on peut tenir un discours cohérent et articulé en appelant parfois cet objet le nœud borovien et en étant quand même capable de reconnaître que ce n'est pas un nœud propre, au sens où les nœuds propres, comme le terme de nœud propre, ou nœud proprement dit, je l'ai emprunté à Conway. C'est Conway qui parle des nœuds propres. Conway, il ne parle pas des nœuds qui sont des chaînes, comme Lacan, mais c'est curieux, il éprouve le besoin de parler des nœuds propres. Des nœuds qui sont ce qu'on appelle nœuds dans la littérature scientifique depuis le 19e siècle. Ça apparaît au 19e siècle à partir de Listing, moitié du siècle. Ce qu'on appelle nœuds, c'est les nœuds, c'est avec une seule ficelle. Alors, quand il y en a plusieurs, en anglais, c'est knots, et quand il y en a plusieurs, ficelles, ça s'appelle chaînes, ça s'appelle ligne. De la littérature, principalement. Et donc, comme étape intermédiaire à propos du nœud borovien de Lacan, j'ai proposé à un moment de l'appeler chaîne nœud. Ça marche bien parce que les lettres, ça donne bien. Hein. Donc, le nœud borovien, c'est une chaîne nœud si on l'oppose aux nœuds propres qui ont un seul fil. Et maintenant, nous allons marquer encore plus cette différence entre les chaînes et les nœuds, puisque je vous propose d'imaginer que nous pourrions faire, ce qui n'existe pas, une théorie des nœuds. Dans cette théorie des nœuds, quoi qu'en dise Thomé, on y trouvera une classification des nœuds, et j'appelle nœuds à ce moment-là les nœuds propres. Nous allons faire donc une théorie des nœuds propres, de ces nœuds faits d'un seul rond. D'un seul rond de ficelle qui sont diversement disposés pour être noués de façon différente et pour produire des torsions d'espace autour d'eux. Et ces deux propres, on va en faire la théorie, et dans cette théorie, il y a même une classification. Et là, vous avez le début de la classification. Les choses extraordinaires, c'est peut-être un argument nouveau que vous ne trouverez nulle part, parce que je ne crois pas que Lacan est formulé comme ça. Choses extraordinaires, cette théorie des nœuds propres sera parallèle à une théorie des nœuds impropres, c'est-à-dire des chaînes nœuds, c'est-à-dire des nœuds au sens où Lacan parle du nœud borovien. Parce qu'il y a des chaînes qui, eux, qui elles, ces chaînes, peut-être que plusieurs ronds, ne sont pas des nœuds. Le fait que ce soit pertinent de parler des chaînes nœuds et des chaînes qu'on appelle des nœuds, c'est justement ce à quoi on va aboutir, vous voyez. C'est que faire la théorie des nœuds, ce sera faire la théorie des chaînes nœuds. Donc il y a un lien avec ces nœuds faits de plusieurs ronds, et les nœuds faits d'un seul rond. Les nœuds, on ne va pas les appeler vrais, parce que nous, on n'est pas comme ça, on fait une différence dans la physique quand même entre ce qui est vrai et la vérité. La vérité, elle est toujours une fiction. Ce qui est vrai, c'est ce qui peut être constaté d'une manière apophantique par des énoncés, c'est depuis Aristote, on appelle ça des énoncés apophantiques. C'est des énoncés qui sont susceptibles d'être vrais ou faux. Apophantiques. Ils sont susceptibles, disons, à leur propos, on pose la question, alors, oui ou non. Voilà. Ça, c'est la logique apophantique, c'est quelque chose qui, depuis l'organe d'Aristote, c'est comme ça que ça se dit. Évidemment, ce qui n'est pas apophantique, vous voyez, Lacan utilise ce couple dans l'étourdie, ça s'appelle modal. Donc il y a des choses qui sont vraies, mais qui ne sont pas forcément nécessaires. C'est une différence extrêmement importante en logique. La différence entre ce qui est vrai et ce qui est nécessairement vrai. Parce que, comme le dit Frege, bien qu'il tourne mal, Frege, il tourne mal parce qu'il devient logiciste, il se prend un peu les pieds dans le truc, mais quand même il a raison au début de dire que la logique c'est une science normative. Il dit à Boulle, en logique on n'étudie pas les lois de la pensée, on étudie les lois de la pensée nécessaires. On étudie les lois de la pensée telles qu'on devrait penser si on pense d'une manière conséquente, valide, ou si on pense d'une manière correcte. Et quand on dit correct, vous voyez, on s'approche déjà de la grammaire. Correction, je ne sais pas si c'est logique ou grammatical. Bon, donc, toujours Frege, il dit c'est la pensée nécessaire, et on s'intéresse à des lois logiques qui sont des lois nécessaires de la pensée. Et c'est justement ce qui oppose la logique à la psychologie, puisque la psychologie, ce n'est pas une science normative, c'est s'occuper de la manière dont on pense, au petit bonheur, la chance. En général, mal, en général, pas bien. Alors là-dessus, vous voyez, on peut dire qu'il y a une hétérogénéité radicale pour Frege entre logique et psychologie, ce qui fait que on ne voit pas du tout ce que la logique et les mathématiques peuvent venir faire en psychanalyse si on croit que la psychanalyse est une psychologie. Qu'est-ce qu'a découvert Freud ? Ben justement, que contrairement à ce que croit la psychologie qui pense que la pensée elle est fautive, erronée, elle peut être fautive, erronée par rapport à la logique, loi nécessaire de la pensée. Mais justement, c'est toute la question du sujet, le sujet cartésien. Le sujet cartésien, c'est un sujet qui se trompe. Et ce que découvre Freud, c'est qu'il se trompe toujours de la même manière. Ce qui fait que, au bout du compte, il y a une normativité de l'erreur. Ça s'appelle métapsychologie. Donc la métapsychologie, c'est une logique des erreurs logiques. Et que c'est imparable. Il n'y a pas 36 000 façons de se tromper. Je peux vous donner un exemple de ce côté absolument inimaginable pour la pensée scientifique. Mais c'est très très amusant, parce que si on fait comme les formalistes, si on est réductionniste, si on est formaliste, si on oublie qu'il faut le temps, si on oublie qu'il faut se tromper pour arriver à construire quelque chose de cohérent, et qui peut même être incomplet, mais qui est cohérent, qui tient, même dans l'incomplétude. Si vous voulez, notre époque, après Gödel, et même après les années 50, les années 60, les années 70, vous voyez, l'idéologie scientifique, la psychose instaurée, que commence à instaurer Blaise Pascal, tandis que Pascal nous aurait précédé dans l'instauration d'une psychose sociale. La psychose sociale, qui s'appelle capitalisme scientifique, on voit dans l'Éminisme, vous voyez, ça donne le fait que les gamins, ils vont vouloir acheter des bougies et des 45 tours qui se trompent, d'après la nomenclatura soviétique, qui devrait plutôt admirer les colcoses. Il s'occupait plutôt de la production industrielle. Qu'est-ce que c'est que ces jeunes BD qui vont jouer du rock, qui s'intéressent à l'Amérique, alors qu'ils ont tout pour vivre bien? Ah, bon, il n'y a pas de marque sur les emballages, mais vous avez vu, en Europe aussi, on a fait des magasins sans marque. Hein, ça paraît plus décent, ça paraît plus puritain, il faut dire comment ça s'appelle, parce que quand on fait des emballages avec des marques, en général, on veut faire reconnaître sa marque par les clients, alors on met une mousse mère poil pour vendre des petits pois. Vous voyez, c'est pas du puritain, parce que des bons emballages sans marque. Déjà que la marque, la notion de marque, c'est quelque chose qui est pas mal dans la psychose, hein, parce que Lacan, il a écrit le discours du capitalisme, le discours de la science, comme un discours, un cinquième discours parmi les quatre discours. Il a écrit ça à Rome, je sais pas, c'est à Milan, et ça a été publié dans un livre qui s'appelle Lacan en Italie. Et prends le discours du maître, comme ça, parce qu'il y avait quatre discours, vous avez le discours du maître. Voilà. C'est la formule de la métaphore. Un signifiant représente un sujet pour un autre signifiant. Ça, c'est la définition du signifiant. Et ça produit A. Ça produit quelque chose. Ça produit quelque chose qui fait une bosse. Si c'est réussi, si le lien entre S1 et S2 dans lequel se trouve divisé le sujet, c'est ça qui est intéressant, c'est voir comment se produit cet effet de signification qui fait que quelqu'un dit « Ah, celui-là, c'est un bon mot, celui-là, je vais le répéter. » Le discours de la science capitale, le discours du capitalisme, maintenant, il inverse le S barré et le S1 dans cette formule. Ça se présente comme ça. Ça, c'est quelque chose qui a été recueilli en Italie. Bon, mais c'est comme toujours un peu Lacan. Quand c'est un discours parlé, il a mis les choses au tableau, on n'est pas très sûr. Alors, qu'est-ce que vous pensez du S barré à la place du S1? Parce que dans le discours hystérique, vous avez le S barré à la place de S1. Mais là, le S1, il est là. Parce que Lacan, il a fait faire un quart de tour au petit père. Hein? Ici, on met ça comme ça. Bon. Donc voilà, là, il y a une configuration discursive. Hein? C'est pas comme le croyait ce brave, ce charmant d'un artiste qui s'était aperçu que comme c'était les quatre discours, c'est quatre permutations, quatre lettres en quatre places, et qu'il y en a 24 permutations, quatre lettres. Alors il a parlé des 24 discours. Quand il est parti de la salle, il y avait Mme Faladé qui était à la tribune, le brave d'un artiste, il avait oublié d'enlever ses pinces à tableau. Il était en train de dire qu'il y avait 24 discours. Lacan, il partait en disant le gros 24 discours. Alors, il y en a un cinquième. Enfin, il y en aurait un cinquième. Alors, je vous ferai remarquer justement, le S barré prend la place du S1. Ça correspond à quoi? Ça correspond au fait que. Est-ce que vous savez qui c'est qui a dessiné le logo de la SNCF? Celui des wagons-lits. Non, il a changé, vous savez, avec le discours managerie, vous avez vu, on a changé tout le design, tous les sigles de la SNCF, par exemple. Hein, puisque maintenant, on parle de partenaires, on parle d'objectifs, enfin, il y a toute une phraséologie managerie qui est venue à la mode depuis les années 80, à peu près. Et le vieux sigle des wagons-lits. Qui c'est qui a dessiné? Nous, on sait qui a dessiné la bouteille de Coca-Cola.